Je vais vous relire un certain nombre de passages sur la personne du Saint-Père qui vont compléter ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois. Puis après ça, j'essaierai de reprendre un peu certains éléments, notamment le lien entre l'éthique, l'anthropologie et la métaphysique, tel que le conçoit le Saint-Père. Alors sur le lien entre l'éthique et la recherche du Saint-Père. Il a été dit plus haut que l'éthique présuppose essentiellement la personne, eu égard aux actes auxquels revient immédiatement la valeur morale. Dans la présente étude, au contraire, nous désirons aller dans la direction opposée. Les actes sont des moments particuliers de l'apperception et donc de la connaissance empirique de la personne. Il constitue en quelque sorte le point de départ le plus approprié pour comprendre son essence dynamique. Et la valeur morale, comme propriété intime de ses actes, nous amène de façon encore plus déterminée à cette compréhension. Les valeurs morales ne nous intéressent pas ici pour elles-mêmes, c'est là justement le thème de l'éthique. Mais en revanche, nous intéresse au plus haut point le fait de leur advenir dans des actes, leur fierie dynamique. C'est lui en effet qui, plus profondément et plus fondamentalement encore que l'acte même, nous révèle la personne. Donc, vous voyez, l'éthique regarde l'acte comme fruit de la personne. Regarde le fait que l'acte met la personne en lien avec une valeur. Ça, c'est l'éthique, proprement dite. C'est ce que fait le Saint-Père dans Amour et responsabilité. Alors que là, ce qu'il veut regarder, c'est la personne à travers l'acte. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Mais la personne à son sommet, donc je dirais l'acte, plus exactement l'acte de la personne dans son sommet, c'est l'acte qui atteint la valeur. Donc on va regarder l'acte éthique. Et on ne va pas regarder le problème des valeurs, le problème du bien et du mal, mais on va regarder l'acte éthique. Donc on regarde l'acte qui atteint le bien. On ne regarde pas le fait que l'homme doit respecter le bien et doit éviter le mal, et qu'il doit tendre vers l'amour et éviter de s'opposer à son prochain. On regarde les actes qui correspondent à ces valeurs, à cette atteinte des valeurs. Et c'est ces actes, je dirais ces actes valorisés, ces actes qualitatifs, qui révèlent en plénitude la personne. Plus que simplement l'acte. Et c'est pour ça que le Saint-Père cherchera, je dirais, la recherche du Saint-Père porte sur l'acte dans sa plénitude et pas simplement les actes en général. C'est pour ça qu'il cherche la transcendance, vous voyez, de l'acte. La transcendance de l'acte, c'est un acte éthique. C'est pour ça que ce sera un acte qui renverra à la vérité, à ce qu'il appelle la vérité sur le bien. Alors, il dit, grâce à cet aspect de la morale, qu'on pourrait aussi nommer dynamique ou bien existentielle, nous pouvons comprendre encore plus profondément l'homme envisagé comme personne. Donc c'est la dimension existentielle de l'éthique qui regarde. Et c'est là justement l'objet de nos investigations dans cette étude. C'est pourquoi, puisant consciemment à l'expérience intégrale de l'homme, nous ne pouvons en aucune façon nous couper en elle de l'expérience des valeurs morales. L'expérience morale, dans son aspect dynamique ou existentiel, est d'ailleurs partie intégrante de l'expérience de l'homme. Alors l'expérience qui constitue le solide fondement de la compréhension de la personne. Envisageant donc ces valeurs de façon dynamique ou, par exemple, pardon, envisageant donc la chose de façon dynamique ou existentielle, on peut dire qu'aussi bien le point de départ de ces valeurs, aussi bien au point de départ de ces valeurs qu'à leur point d'arrivée, se manifeste la personne. Elle se manifeste plus encore, plus pleinement que par le seul acte pur. Donc, c'est-à-dire l'acte qui n'est pas lié à l'éthique. Il semble d'ailleurs qu'il serait artificiel de séparer l'acte humain des valeurs morales et que cela détournerait notre attention de sa pleine dynamique. Bon. Donc, au fond, c'est le fondement, vous voyez, c'est le fondement de l'éthique qu'il atteint là. Donc, non seulement on l'a vu, il cherche le fondement de la philosophie, je dirais, de l'acte humain dans la mesure où il assume la vie humaine, la philosophie du vivant, mais il cherche aussi l'acte humain en tant qu'il explique le fondement de l'éthique. Donc vous voyez, c'est significatif. D'une part, il développe l'éthique du côté des valeurs, et il dit que le fondement de l'éthique, c'est les valeurs. Et d'autre part, il montre bien là qu'il y a quelque chose de plus radical encore que les valeurs, c'est la manière dont elles sont atteintes par nous. Alors, une remarque aussi sur... je dirais les liens du Saint-Père par rapport à Kant et par rapport à la phénoménologie, pour essayer de comprendre un peu. L'auteur a consacré beaucoup de temps à l'analyse de Max Scheler. La critique de Kant, contenue dans cette œuvre centrale de Scheler, pour nos investigations, est devenue à son tour, pour l'auteur, une occasion de repenser et d'accepter en partie certains éléments du personnalisme kantien. Il s'agit ici en particulier de son personnalisme éthique. Vous voyez le fait que c'est la personne qui est le sommet de l'éthique. Et c'est dans l'acte de la personne et dans l'acte qui regarde la personne que l'homme s'accomplit. C'est ce que montre Kant. L'auteur considère la discussion entre Scheler et les perspectives kantiennes comme un point de départ spécifique pour les réflexions élaborées en la présente étude sur le thème personne et acte. En effet, cette discussion, bien que concernant immédiatement la conception de l'éthique, approfondissait la conception de l'homme, en particulier la conception de la personne, que la philosophie et aussi la théologie héritent de Boès. Donc au fond, le débat entre la phénoménologie et Kant oblige, la scolastique, d'aller plus loin. Parce qu'elle montre, vous voyez, c'est le rôle de... Enfin, c'est comme ça que sans doute le Saint-Père voit Kant, c'est que Kant développe la dimension personnelle et l'éthique dans sa dimension personnelle. Alors que Aristote est souvent présenté comme une éthique qui n'est pas une éthique personnelle, qui est une éthique objective séparée de la personne. Bien que ça ne soit pas juste, c'est comme ça qu'elle est présentée. Alors, un autre passage. Sur le lien, donc un autre aspect. Donc ça, c'est le lien entre l'étude de l'acte et l'éthique. Il y a un autre aspect qui achève, vous voyez, on avait vu comment est-ce que l'acte implique ce qu'il appelait l'efficience. Donc tout le point de vue vital. Et ce qu'on va voir là, c'est que l'acte, la transcendance de l'acte, manifeste la spiritualité de l'homme. Donc vous voyez, c'est de voir comment est-ce que l'acte rejoint l'esprit. C'est la transcendance de l'acte qui manifeste la spiritualité de l'homme. Donc vous voyez, on retrouve le souci de montrer comment est-ce qu'une recherche qui n'est pas métaphysique, mais qui tend vers la métaphysique, c'est de montrer le lien entre l'acte et l'esprit. La transcendance de l'acte et l'esprit. Mais de la même manière qu'on a essayé de voir que la personne, c'est l'être qui rejoint l'esprit. Je crois qu'il faut le mettre en parallèle. Voilà. C'est donc avant tout sur l'expérience de la transcendance qui revient à la personne dans son acte, expérience que nous avons tenté de décrire et d'analyser. Vous voyez, ça dit bien la chose, hein, décrire et analyser, c'est la réduction phénoménologique. C'est-à-dire qu'on fait les deux à la fois. On n'arrête pas de décrire même quand on analyse. Donc on n'arrive jamais à, vous voyez, un principe, on arrive toujours à un noyau fondamental. On ne quitte jamais l'expérience. Expérience que nous avons tenté d'analyser, que s'appuie la conviction relative à la spiritualité de l'homme. Le concept esprit, spiritualité, est parfois quelque peu unilatéral, identifié qu'il est à la négation de la matérialité. Cependant, expliquer la spiritualité par la négation de la matérialité implique quelques vues positives de cette spiritualité. Une telle vue, nous la trouvons justement dans la transcendance de la personne. Donc la saisie positive de l'esprit, elle se fait dans la transcendance de la personne, donc dans la transcendance de l'acte. Tout ce qui constitue la transcendance de la personne dans l'acte, ce qui décide d'elle, est révélation de la spiritualité. Étant donné que tout, ainsi que nous l'avons vu, entre dans le domaine de l'expérience phénoménologique, la certitude de la spiritualité de l'homme en ses manifestations authentiques n'est pas seulement le résultat de quelque abstraction, mais, si l'on peut s'exprimer ainsi, à sa forme intuitive. Donc, vous voyez, on atteint quelque chose de l'esprit dans l'acte de l'homme. Et on ne déduit pas simplement l'esprit par abstraction. La spiritualité est accessible à l'observation, mais également à l'intuition. Cette forme, la forme de la transcendance, est la forme concrète de l'existence de l'homme. Mieux, elle est la forme de sa vie. Vous voyez, ça, je crois que ça dit bien ce que c'est que par rapport à la personne. Donc, je le relis. La forme de la transcendance est la forme concrète de l'existence de l'homme. Mieux, elle est la forme de sa vie. En tant que personne, l'homme vit et s'accomplit en cette forme. Donc, vous voyez, ça dit bien qu'au fond, toute la transcendance est au niveau de la vie et qu'on n'atteint pas vraiment le point de vue de l'être. Car c'est la liberté, l'obligation, la responsabilité en ce qu'elle nous permet d'une certaine façon de voir la véridicité. La véridicité, c'est la vérité pratique. Autrement dit, l'ordination à la vérité, non pas uniquement dans le penser, mais également dans l'agir, qui constitue la trame réelle et concrète de la vie personnelle de l'homme. Plus encore, toute la structure phénoménologique de l'autopossession et de l'automaîtrise trouve en elle justement son fondement. Bon, et puis je vais vous lire un dernier passage qui est la conclusion de l'ouvrage. Vous voyez, le premier que je vous ai lu, c'est l'introduction. Là, c'est un peu le cœur de l'ouvrage où il donne une approche de la personne par rapport à sa dimension spirituelle. Puis à la fin, il conclut comme ça. Avant d'abandonner le champ des réflexions portant sur le thème de la personne et de l'acte, il convient encore d'apaiser certaines craintes. Il s'agit de la crainte portant sur le statut existentiel de l'homme concernant la vérité de ses limitations, c'est-à-dire de sa contingence ontique, en latin « ens contingens ». Cette vérité est-elle suffisamment inscrite dans l'analyse qui porte sur la personne et l'acte? Le statut ontique de l'homme y est-il assez lisible? C'est là un souci légitime, ne serait-ce que pour la raison que la conception de la personne et de l'acte proposée dans cette étude procède de l'expérience « l'homme agit » et doit correspondre à ce contenu en vérité. L'objet de cette étude est donc la personne telle qu'elle se révèle dans l'acte et telle qu'elle s'y révèle à travers tous les conditionnements psychosomatiques qui sont en même temps richesse de l'homme et limitations spécifiques. Donc vous voyez, là, c'est la même chose au fond. Toute analyse phénoménologique doit se faire dans le conditionnement et elle doit assumer directement le conditionnement. Donc, il n'y a pas de moment, vous voyez, dans la phénoménologie, il n'y a pas de moment où on dépasse le conditionnement pour étudier la détermination. On étudie la détermination à travers le conditionnement. C'est pour cette raison que la personne manifeste non seulement la transcendance qui lui est propre dans l'acte, mais également l'intégration appropriée à l'acte, l'intégration donc du conditionnement. La réalité dynamique de l'acte se constitue dans cette intégration et non en dehors ou au-dessus d'elle. La personne qui se manifeste au travers de l'acte imprègne en quelque sorte et embrasse en même temps toute la structure psychosomatique du sujet propre. Donc vous voyez, la personne c'est un tout complexe, c'est vrai, c'est net pour le Saint-Père, et ce qu'il essaye de saisir, c'est où est-ce qu'elle est dans son sommet. Donc vous voyez, il ne cherche pas tellement à définir la personne, vous voyez, dans son tout, il essaye de chercher l'ordre de la personne. Et quel est le sommet dans cet ordre? Vous voyez, c'est pour ça que ce n'est pas un regard métaphysique. Il ne regarde pas la personne dans le regard immédiatement de l'être. Il la regarde dans sa complexité, donc un peu comme une synthèse. Il la regarde de manière synthétique, comme une vision de sagesse. Si l'aspect de l'intégration de la personne dans l'acte ne peut en tant que tel élucider le statut ontique de l'homme, ce dont nous convenons, donc il dit bien que son analyse ne conclut pas le problème métaphysique, il nous rapproche de sa compréhension, dans la mesure où le permettent les présupposés de cette étude et la méthode adoptée. Alors c'est là qu'il précise, à la lumière de ce qui a été dit dans l'introduction, Il s'agissait dans cette étude de faire sortir de l'expérience de l'acte ce qui témoigne de l'homme comme personne. Vous voyez, ça c'est très précis. Donc faire sortir de l'expérience de l'acte ce qui témoigne de l'homme comme personne. Ce qui, d'une certaine manière, rend cette personne visible. Il ne s'agissait pas, en revanche, d'élaborer une théorie de la personne comme être, une conception métaphysique de l'homme. Néanmoins, que l'homme en tant que personne se manifeste ainsi que nous nous sommes efforcés de le montrer dans les analyses ici menées, semble confirmer suffisamment que son statut ontique n'excède pas les limites de la contingence. Voilà. Alors, je vais reprendre juste quelques éléments avant de répondre à une question. Enfin, en répondant à une question, on m'a demandé qu'est-ce qui justifie en l'homme cette division. Vous voyez, la division conscience, dynamisme vital, acte et acte de la volonté. Et puis conditionnement. Je dirais d'abord, ce n'est pas une division. Vous voyez, le propre de la phénoménologie, ce n'est pas de travailler par division, je dirais. C'est de travailler par réduction. C'est-à-dire que vous saisissez d'abord ce qu'il y a de plus vous voyez, le milieu le plus large. Et puis ensuite, vous essayez de saisir le noyau fondamental. Donc vous rejetez, vous voyez, je dirais, c'est presque visuel, hein, la réduction phénoménologique. Vous allez vers le centre, vous voyez. Et vous allez par le centre en spirale, c'est-à-dire que vous commencez par étudier les choses de la manière la plus lointaine. C'est pour ça que le Saint-Père commence par la conscience. La première chose que j'expérimente, la chose qui est la plus proche coadnos dans l'expérience, c'est la conscience. Donc j'étudie la conscience. Ensuite, à l'intérieur de la conscience, je découvre la vie. La conscience me révèle la vie. Donc j'étudie le dynamisme vital. À l'intérieur de ce dynamisme vital, je saisis une fine pointe qui est la volonté. Qui s'oppose pas, mais qui a pour autre extrême la nature. Vous voyez, la nature et la volonté sont les deux extrêmes de la vie. Et à l'intérieur de la volonté, je saisis l'acte de la volonté dans son sommet. Et ça, c'est la transcendance. Vous voyez ? Mais la transcendance, elle est saisie dans la conscience. Vous voyez, je ne quitte pas la conscience. Et alors ensuite, je fais l'inverse. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai saisi ce que c'est que la transcendance de l'acte, j'essaie de voir comment est-ce que la transcendance assume la volonté. Vous voyez, c'est tout de la manière dont la... Alors, il y a la transcendance et son lien à la vérité. Vous voyez, je crois que le lien entre la transcendance et la vérité, c'est la fine pointe. Alors ensuite, je vois comment est-ce que le lien entre la manière dont, dans mon acte de volonté, je me réfère à la vérité, je vois comment est-ce que ça permet à ma volonté d'agir. C'est pour ça que je regarde ce qu'il appelle l'obligation, la décision, la responsabilité. Vous voyez, je reprends, à la lumière de ce que j'ai saisi là, je reprends la démarche inverse. Vous voyez ? Une fois que j'ai ressaisi ce que j'ai saisi, le lien entre la transcendance de l'acte et la volonté, je saisis le lien entre la transcendance de l'acte et toute l'efficience vitale. Donc c'est tout le problème de l'assomption du corps et du psychisme. Vous voyez ? Et au terme, la dernière chose qui regarde, bon, c'est au-delà du point de vue de la conscience, c'est d'essayer de voir comment est-ce que cette saisie de la transcendance de l'acte doit avoir un rôle dans mon lien avec les autres. Vous voyez, ça c'est pour essayer de saisir ce que c'est que l'analyse phénoménologique. Alors la conscience, c'est le milieu. Mais ça, je n'ai peut-être pas assez insisté la dernière fois. La conscience, elle apparaît à tous les niveaux de l'analyse, hein. Notamment au niveau moral. Vous voyez, c'est pour ça, c'est bon, dans l'encyclique, pas l'encyclique, mais la lettre que le Saint-Père a écrite aux jeunes. Il parle très souvent de la conscience morale. Pourquoi ? Il parle dans son livre de la valeur normative de la conscience morale. Pourquoi ? Parce que tout se déroule dans la conscience. Vous voyez, je dirais la conscience, c'est le théâtre dans lequel je vis. Alors, qu'est-ce qui m'indique ce que je dois faire ? C'est la conscience qui me l'indique. Parce que j'atteins le bien, vous voyez, ça présuppose que j'atteigne le bien et que je découvre la vérité. Mais qu'est-ce qui fait le passage entre la vérité que je découvre, le bien que je découvre et mon action ? C'est la conscience. Vous voyez, c'est la conscience qui me fait agir. Je dirais la conscience, c'est le dialogue que j'ai avec moi-même. Quoi. Vous voyez, on pourrait dire que ce qu'il appelle la valeur normative de la conscience, c'est la vérité du bien reçue dans le sujet. Vous voyez, reçue dans ce qu'il appelle le « je ». Vous voyez, je dirais, c'est la conscience qui permet de m'ajuster comme sujet à ce que j'atteins par l'intelligence et la volonté. Vous voyez, c'est. Faudrait voir, vous voyez, si c'est le lieu, ça serait le lieu éminent de la prudence. Nous, on ne parlerait peut-être pas de conscience, mais on dirait que c'est la prudence. Vous voyez, parce qu'au fond, la valeur normative de la conscience, c'est la prudence qui saisit ça. Qui saisit le lien entre les moyens et la fin, c'est vraiment ça. Alors, donc j'irais, ça, il n'y a pas une division entre la conscience et le dynamisme vital, hein, parce que ça, c'est le milieu. Ensuite, l'acte de la volonté, il est le sommet du dynamisme vital, puisqu'il dit que la personne est la synthèse entre la subjectivité et le dynamisme vital, donc entre la conscience et le dynamisme vital. Ensuite, le conditionnement, alors là, c'est vrai, le conditionnement, il est ce qui est assumé par l'acte de la volonté. Oui, exactement. Oui. Alors, ça dépend des niveaux. Dans un premier moment, elle est regardée au niveau du vivant. Et à ce niveau-là, donc, vous voyez, quand je vous parle de la valeur normative de la conscience, ce n'est pas là qu'il l'étudie. C'est là qu'il l'étudie, la conscience. Là, c'est au niveau. Oui. Ah, si, si. Si, si. Non, dans le domaine moral, tu veux dire. Dans le domaine moral, oui. C'est-à-dire que j'atteins le bien, mais ensuite, comment est-ce que je considère, comment est-ce que j'agis en fonction de ce bien? C'est par une réflexion intérieure qui se fait dans ma conscience morale. La conscience, je dirais, c'est le lieu qui c'est le, enfin, c'est le lieu où sont reçues toutes les informations. C'est le lieu de ma subjectivité, la conscience. C'est le lieu de ma cohérence, on dirait, nous, c'est le lieu de ma cohérence psychologique, oui. Ça, on peut dire ça. C'est le lieu de la manière dont je m'apparais à moi-même cohérent, la conscience. C'est la manière dont je me regarde. C'est ce par quoi je me regarde. Et donc, il faut, quand je veux agir moralement, il faut que je sache. Enfin, je dirais, ce qu'il faut voir, c'est le souci qu'il y a derrière. Ce qu'il veut montrer, c'est que l'expérience que j'ai du bien, ce n'est pas une expérience objective séparée de moi. C'est une expérience objective qui est liée à moi. C'est pour ça qu'il parle tout le temps de la conscience. Ben, précisément pour lui, la prudence, c'est une analyse qui est séparée de mon expérience. C'est-à-dire que la prudence, c'est quelque chose en soi. Alors que la conscience, c'est dans mon expérience. Donc je dirais, la conscience, c'est la prudence en acte dans ma vie. Faut voir encore une fois la manière. Voilà, c'est le vécu de la prudence. Faut bien voir, hein, c'est qu'il ne s'oppose pas, mais il travaille sur le fond d'une philosophie, vous voyez, qui tient toute seule, en soi, quoi. Et qui ne vient pas du tout de l'expérience. Parce qu'elle vient de l'atelier, elle vient de saint Thomas. Vous voyez, elle est reçue, mais elle n'est plus du tout redécouverte à partir de l'expérience. Pour nous, ça implique une abstraction. C'est ce que disait le père. Pour nous, l'abstraction, elle n'est pas séparée du concret. Mais précisément, ce qu'on lui a présenté, lui, c'est une abstraction séparée du concret. Or, c'est le problème, quand tu pars de l'abstraction, tu ne rejoins jamais le concret. Alors, je dirais, c'est peut-être la crainte de la phénoménologie, c'est de passer à une véritable. Ils acceptent la première abstraction, hein, puisque c'est ce que dit le Saint-Père. Réfléchir sur le fait l'homme agit, il accepte la première abstraction. Mais l'induction, non. Enfin, ce qu'il appelle l'induction, c'est cette première abstraction. Est-ce que disait blanc, blancheur. C'est ce qu'il appelle, lui, l'induction. Oui. C'est le bien qui meut la volonté, mais ce qui meut la personne, ça implique la valeur normative, parce que tu n'es pas que volonté. Tu vois? Tu dirais quand tu dis ce qui meut la volonté, oui, la volonté atteint le bien, mais pour que toute ma personne agisse, ça implique la conscience. Ce que tu peux vouloir en être incapable. Tu peux atteindre le bien et puis être incapable, tu vois, de passer à l'acte. Donc ça va impliquer que, non, c'est là que je dirais, ça va impliquer la prudence. Dans l'analyse, je distingue ma volonté qui atteint le bien et mon action, mais au point de vue pratique, les deux doivent être liés. Et si les deux ne peuvent pas être liés, je n'atteins pas vraiment mon bien. Je vois qu'il faut que je l'atteigne, je voudrais l'atteindre, mais je ne l'atteins pas. Ah non, pas qui détermine, non. Non, 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 pas qui détermine. Mais qui, si tu veux, qui meut au sens de qui motive, oui, la valeur, elle motive. C'est la manière dont le... Tu vois, c'est la causalité exemplaire, la valeur. C'est le bien pour moi. Alors, ce qu'il faudrait maintenant se poser juste deux, trois questions. Ce que je crois, ce qui est important, c'est de voir que le Saint-Père aborde la personne, bon, d'abord sur le fond de l'analyse, vous voyez, à la fois de l'analyse traditionnelle, qui au fond définit la personne. Vous voyez, l'analyse traditionnelle, c'est surtout une définition de la personne. Donc, vous voyez, je dirais, ça abstrait complètement le problème de la personne, ça en fait quelque chose qui n'a plus toute sa complexité, toute sa richesse. Et puis, il part aussi de l'expérience phénoménologique. La phénoménologie, qui part, elle, de l'expérience vécue. Et puis, il y a aussi le souci kantien. Qui est de saisir la transcendance de la personne. Oui, la phénoménologie, au fond, c'est pas son souci, c'est, je dirais, c'est l'immanence. C'est pas du tout la transcendance. Ou alors, c'est, vous voyez. Alors que le souci de Kant, c'est de montrer que la personne est quelque chose d'irréductible à toutes les autres réalités existantes. La personne est le, pour Kant, est le seul lieu où j'ai une certaine expérience immédiate de la transcendance. Vous voyez, c'est le seul lieu où sa distinction entre noumen et phénomène, où par le bien, donc par l'éthique, j'ai une expérience du noumen dans la personne, puisque je suis moi-même une personne. Donc, je dirais, il y a ce triple souci du Saint-Père. Et je dirais, c'est peut-être ça qui va expliquer, vous voyez, les divers éléments de son analyse. À la fois la méthode phénoménologique, donc la réduction, qui fait que c'est si complexe, vous voyez, toute la complexité, et à la fois toute la richesse qu'on a vue, la philosophie du vivant, la philosophie, les fondements de la philosophie éthique, et puis même un souci métaphysique. Alors le vivant de la vie, je dirais, végétative jusqu'à la vie spirituelle. Et je dirais, et à la fois c'est ça qui lui impose les limites, parce que la réduction phénoménologique, elle aboutit pas à la saisie des principes. Et puis, à cause du souci kantien, il essaye de montrer que la transcendance de l'acte, j'irais, est ce qui détermine la personne, vous voyez, qu'au fond, c'est sans doute le souci, vous voyez, de Kant et le souci de l'éthique qui fait qu'il essaye de montrer qu'il y a un lieu où la personne se dépasse elle-même, de manière radicale. Même s'il le dit dans la conclusion, ce n'est pas un dépassement ontologique. C'est-à-dire que la personne, elle demeure contingente, mais il y a quelque chose de transcendant dans la personne, qui est l'acte. Et cette transcendance, je dirais, elle apparaît dans l'acte éthique. Et puis, la troisième chose, et je dirais qui est peut-être la plus intéressante, c'est le fait que malgré tout, il veut garder un lien avec la philosophie traditionnelle, et il garde un souci d'une métaphysique. Dont il cherche à donner les fondements phénoménologiques. Alors, vous voyez, tout le problème est de savoir, est-ce que c'est possible de passer d'une description phénoménologique à une métaphysique, sans passer par l'induction des principes. Et c'est peut-être là la clé, c'est qu'au fond, il faudrait qu'au niveau du vivant, au niveau de l'éthique, il y ait une induction des principes. Oui. Oui, voilà. Oui, c'est ça, c'est les transcendentaux. Alors, d'une certaine manière, la métaphysique joue un rôle de causalité exemplaire, on peut presque dire ça. Pour lui, vous voyez, la métaphysique reste, elle a les transcendentaux, puisqu'il dit que les transcendentaux font presque partie de l'expérience. Oui, oui, c'est ça. Donc, on pourrait presque passer de la phénoménologie à une métaphysique des valeurs.
Les transcendantaux, c'est les valeurs. Mais les valeurs, les transcendantaux, c'est les valeurs suprêmes. L'être, le bien, le beau. C'est pour ça qu'il y a ce tiraillement, vous voyez, permanent, qui apparaît, je dirais même, entre les deux ouvrages du Saint-Père, qui est Personne et Acte et Amour et Responsabilité. Amour et Responsabilité, c'est vraiment une éthique des valeurs. Alors que dans Personne et Acte, il a un souci, vous voyez, de coller beaucoup plus à l'expérience. Et toute la recherche de l'entelekeia est beaucoup plus forte. Mais... Non, il ne l'explique pas. Il ne peut pas l'expliquer. Il ne peut pas l'expliquer. Il essaye de la... Oui, c'est ça. C'est la description. L'important, c'est de mettre le doigt dessus. Ensuite, tu ne peux pas dépasser, tu ne peux pas atteindre une intelligibilité qui va l'éclairer. Tu vois, c'est le problème. Il n'y a pas de passage au principe. Alors, au fond, je dirais, il cerne le problème très bien. Il le cerne dans ce qu'il a de central. Hein. Et on sent bien, mais ce qui est difficile, c'est qu'à la fois, tous les problèmes sont cernés ensemble. Parce que, précisément, il prend l'expérience que... Vous voyez, c'est ce qu'on a vu, hein, l'expérience de l'acte humain, il peut servir à toutes les réflexions, aussi bien métaphysiques, de vivant que d'éthique. Et donc, c'est ça qu'il sent. Et il la regarde comme autre. Toi, il la regarde comme autre. Mais le problème, c'est que si tu veux une chose, ce que tu atteins, autre chose, le moyen par lequel tu l'exprimes. Enfin, je ne dirais pas que le Saint-Père n'a pas saisi qu'il y avait quelque chose qui dépassait, mais il n'a pas l'instrument philosophique pour le dire. Voilà, il est réaliste, mais sa méthode ne l'est pas vraiment. Et je dirais, il est le plus... C'est très frappant, il est même très très réaliste, puisque... Toutes les analyses qu'il mène, elles devraient toutes aboutir à une induction. Il a tous les éléments pour ça. Et donc, je dirais, il n'y a aucune erreur dans son analyse, parce qu'elle part de l'expérience. Donc, elle est... Alors que le problème de la phénoménologie, c'est qu'il y a toujours un moment où on dérape. Par exemple, c'est typique entre, on l'avait vu, la conscience et la connaissance. Le phénoménologue ne distingue pas la conscience de la connaissance. Or, je crois, et si on regarde bien, il y a peu de distinctions que le Saint-Père ne fait pas, lui. Mais il n'a pas l'instrument philosophique pour l'exprimer et puis aussi pour, j'ai envie de dire, pour l'expliciter pleinement. Oui, frère Stéphane. Propre de la phénoménologie, c'est de ne pas sortir de la description. C'est de décrire mon expérience dans ce que je vis. Et de saisir les axes, les choses importantes, les points centraux, le noyau fondamental de mes expériences. Voilà. Mais je ne me sers pas de l'expérience pour atteindre au-delà de l'expérience. Alors en plus, c'est là la différence, je dirais, entre la phénoménologie traditionnelle et d'une certaine manière le Saint-Père. C'est pour ça qu'il est toujours un peu sur deux pieds. C'est que la phénoménologie traditionnelle part de l'expérience de la conscience, donc de l'expérience interne. Tout est vu à travers ce que je vis. Donc je dirais, il n'y a pas d'expérience de l'autre pour l'autre. Je regarde l'autre à travers la manière dont j'en vis. Alors que, précisément, quand le Saint-Père dit qu'il faut distinguer la conscience de la connaissance, et quand il dit que la connaissance est le fondement de la conscience, ça implique donc qu'il y a un lien à l'autre, à l'être, qui est plus fondamental que la conscience. Mais je dirais, il le dit, mais au fond, ça, il ne le développe pas. Alors que ça serait une réflexion là-dessus qui l'amènerait vraiment à voir quel est l'objet de la connaissance, la différence entre l'objet de la connaissance et puis l'objet de la connaissance tel qu'il est reçu dans la conscience. S'il y a des... Oui, je crois que c'est ça. Mais précisément, l'entelekeia, j'ai envie de dire, s'il dit qu'il est transcendant, ça veut bien dire qu'il pressent qu'il est lié à l'energeia. Mais il n'a pas, encore une fois, il n'a pas, on serait dans le même état. Hein. Tant qu'on n'a pas l'instrument, et tant qu'on a, j'ai envie de dire, on n'est pas tous Aristote, alors tant qu'on n'a pas de maître qui nous enseigne, ou plus exactement quand les maîtres qui vous enseignent disent des choses qui ne sont pas. Voilà un patrimoine qu'il faut réussir à assumer. Voilà. Oui, ça c'est net. Et de la foi. Il montre que c'est pas compatible. C'est ça. C'est ça, Edith Stein, c'est le problème aussi d'Edith Stein. C'est ce que fait Bergson. Bergson trahit les phénomènes, trahit les mystiques parce qu'il les récupère en disant on peut faire de la philosophie à partir de l'expérience des mystiques même si on ne l'a pas. Donc il abstrait complètement la foi. Alors qu'effectivement Edith Stein et le Saint-Père, tous les deux parce qu'ils ont la foi, eh bien, voient bien que ça demanderait simplement que ça soit bien, 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 tu vois, d'avoir creusé, je dirais, ce problème critique-là. Oui. 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 Je peux vous le. Oui. Il leur dit, là, attendez. Voilà. L'identité ne doit pas cacher la disparité illimitée, donc entre l'expérience interne et l'expérience externe. Disparité qui résulte de ce que c'est seulement par rapport à cet homme unique que je suis, qu'existe aussi l'expérience à partir de l'intérieur, qui n'intervient par rapport à aucun autre homme en dehors de moi. Tous les autres ne sont jamais compris que dans une expérience de l'extérieur. Donc mon expérience de moi, elle n'est qu'une expérience interne. Il reste évidemment possible de communiquer avec eux autrement que par la simple expérience, et cela rend d'une certaine façon accessible ce qui est l'objet de leur expérience exclusive de l'intérieur. Mais l'expérience intérieure elle-même ne peut être transférée au-delà du propre je. Et pourtant, cette circonstance n'entraîne pas de séparation dans la structure d'ensemble de notre connaissance de l'homme. Séparation qui aurait pour résultat que l'homme intérieur par lequel on ne fait d'expérience que de son je propre, se distinguerait de l'homme extérieur, que serait tout autre homme en dehors de moi. Les autres ne restent pas pour moi comme une simple extériorité, par opposition à ma propre intériorité. Mais dans la structure d'ensemble de la connaissance, ces aspects se complètent et s'égalisent. Et l'expérience même sous ces deux formes, intérieure et extérieure, concourt à ce résultat au lieu de l'entraver. Alors il développe après ça. Ainsi donc, tout d'abord, je suis pour moi-même non seulement intériorité, mais aussi extériorité, étant objet de deux expériences. Donc, le problème, c'est de savoir si c'est deux expériences ou deux aspects de la même. L'intérieur et l'extérieur. Bien que je ne fasse pas directement l'expérience de cette intériorité de l'autre homme, je ne l'ignore pas. Je sais qu'elle existe chez les hommes en général. Et en ce qui concerne certains d'entre eux, je puis en avoir une connaissance approfondie. Parfois, cette connaissance à partir d'un contact déterminé peut devenir comme une sorte d'expérience d'une autre intériorité. Ça, c'est l'ami. Il faut tenir compte de tout cela pour comprendre l'expérience de l'homme. Il n'est pas possible de séparer artificiellement cette expérience de la structure d'ensemble des actes cognitifs qui ont justement l'homme pour objet. Pour l'ensemble des actes cognitifs ordonnés à l'homme, ou bien à l'homme que je suis, qu'à tout autre hors de moi, possède un caractère empirique en même temps qu'intellectuel. L'un est compris dans l'autre. L'un est compris dans l'autre, exerce son influence sur lui et profite de la sienne. Il convient dans la présente étude d'avoir toujours sous les yeux l'expérience totale de l'homme. La disparité de l'expérience n'introduit en lui aucune disjonction cognitive, pas davantage une irréductibilité. Alors c'est ce qu'il ajoute, on peut même dire que la complexité de l'expérience humaine ne laisse pas d'être dominée par sa simplicité foncière. Quant à cette complexité de l'expérience, elle ne fait qu'indiquer que la structure d'ensemble de l'expérience et par suite de la connaissance de l'homme se compose aussi bien de l'expérience que chacun de nous possède par rapport à lui-même que de l'expérience des autres hommes. La conviction acquise de la simplicité foncière de l'expérience de l'homme constitue pour l'ensemble du problème cognitif qui fait l'objet de la présente étude une donnée plutôt encourageante. Donc effectivement, il ne veut pas mettre de prima. Alors qu'il faudrait montrer qu'il y a deux ordres différents. Il y a un ordre génétique et un ordre de nature. Mais il ne montre pas, et ça on le voit dans tout son... Par contre, ce qu'il reproche, alors ça c'est clair, hein, ce qu'il reproche à la philosophie traditionnelle, c'est uniquement d'avoir l'expérience externe. Et qu'il n'y ait aucune expérience interne. Donc que ça ne soit pas une expérience vécue. Parce que l'expérience externe, comme elle est objective, elle permet d'être transmise, je dirais, par l'enseignement, sans être vécue. Alors que l'expérience interne, ça c'est vrai, ça je dirais, ça, effectivement, ça c'est l'avantage de la phénoménologie, c'est que la phénoménologie est incompréhensible pour celui qui ne cherche pas à vivre la même chose que celui qui parle. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux pas trop en faire, parce que sinon, on devient comme celui qu'on lit, et à ce moment-là, on ne voit plus comment en sortir. Non, c'est très vrai. Quand vous avez des études, celui qui a préfacé un livre de Husserl sur les 5 leçons, il dit les deux positions. On peut être réaliste, donc il a, dans son expérience, il est sur la frontière où il est réaliste à certains moments, il choisit d'être idéaliste ou réaliste. Et il dit, au fond, la plus cohérente, c'est d'opter pour l'idéalisme. Et Husserl a fait la même chose. Donc, vous voyez, c'est... Effectivement, alors il faudrait réfléchir sur l'ordre entre l'expérience... Il faut accepter qu'il y a un ordre entre l'expérience externe. Mais vous voyez, c'est peut-être aussi d'expliquer ce que c'est que l'expérience externe. Voilà, c'est aller extérieur. Donc c'est pas, vous voyez, c'est même pas les sensations, elle est purement intellectuelle. Vous voyez, je crois que c'est ça qui la définirait, c'est qu'elle est purement intellectuelle. Elle n'est pas liée au sens. Oui, c'est ça. Oui. Non, non, non. Donc ça, c'est un hein, Bernard Maria. Ça serait ça qu'il faudrait réfléchir là, avant de pouvoir ensuite. Voilà. C'est le problème aussi entre l'être et la vie. Hein, on voit que toute l'analyse du Saint-Père elle est au niveau de la vie, et pour saisir l'être de l'homme. Il ne suffit pas au terme de faire quelque chose, c'est dès le point de départ qu'il faudrait distinguer. Donc c'est tout le problème du jugement d'existence. Alors le jugement d'existence, il est présent, le Saint-Père, il avait dit, il a les pieds sur terre, mais il n'est pas précisé. Donc la phénoménologie, c'est une philosophie de la vie. Et alors il parle de la métaphysique, mais c'est clair que pour lui, la métaphysique, c'est un patrimoine reçu intellectuellement, mais l'être, on a souvent l'impression... Que, ou bien il parle de l'ontologie, à ce moment-là, ça peut être la vie fondamentale. Vous voyez, ce qu'il y a de fondamental dans la vie humaine, c'est ontologique. Mais la métaphysique liée au jugement d'existence, ça, il n'y a pas du tout. Il pressent que ça doit exister, mais il ne l'a pas rencontré.
Comment est-ce que si on commence à
Oui. Oui, ça oui. Mais ça te permet, quand tu as les deux, si on t'enseigne à la fois la philosophie réaliste et la phénoménologie, pour choisir, il faut que tu aies ton expérience, mais il faut aussi une petite réflexion critique, en parallèle. Tu vois, parce que le problème, c'est que sinon, ça voudrait dire que le Saint-Père, il est pas réaliste. Or, dans son intelligence, on voit bien qu'il y a des, qui part de l'expérience. Bon, puis, il a, j'ai envie de dire, hein, c'est son premier ouvrage. Hein, il était... Non, mais c'est vrai, dans le sens que c'est pas... Je veux dire, il le dit lui-même, hein, qu'il aurait bien aimé continuer. Et le Seigneur lui a pas laissé le choix, mais il n'a jamais dit dans cet ouvrage que c'était un terme, hein, une synthèse. C'est simplement, je dirais, le condensé de cours qu'il a fait. Donc, c'est très clair dans le livre, hein, qu'il, alors, on le voit au début, c'est pas du tout une pensée achevée. Hein, ça n'a pas du tout la présence... Vous voyez, ça a beaucoup moins la prétention que Kant ou que Scheller d'être une pensée achevée. C'est un premier essai. Oui, je dirais, c'est l'éthique à Eudème. Ou... Oui, c'est pas du tout. Faut bien voir. Hein, c'est pas du tout une œuvre, une somme. Vous voyez, l'œuvre c'est pas du tout comme ça qu'il le présente au début. Il dit, c'est une tentative de recherche personnelle à partir de ce qu'il a reçu, et il montre bien qu'il est très dépendant. Ça, il le dit tout le temps. Hein, qu'il est très dépendant des enseignements qu'il a reçus. Donc, il pressent bien. La difficulté de se séparer, mais de recommencer vraiment les choses à...